ce 3 avril, c'est le deuxième anniversaire du décès d'un des grands savants de ce siècle, un homme qui a fait des découvertes extrêmement importantes en génétique, qui était membre de nombreuses académies. C'est comme quelqu'un, disons, un littérateur qui est membre de l'Académie française, eh bien, lui, il était membre de l'Académie de médecine, l'Académie pontificale des sciences, etc., etc. C'était, en somme, un généticien de réputation mondiale, un Français du nom de Jérôme le Jeune. C'est un homme de très grand courage, énorme. Et ça vaut la peine vraiment de lui consacrer toute l'heure. Surtout en pleine Semaine Sainte, alors que celui qui a eu le plus grand courage dans toute l'histoire de l'humanité, Jésus-Christ, a été bafoué, renié, emprisonné, battu, couronné d'épines, une couronne qu'on a enfoncée dans son crâne, et qui a été tué, crucifié, alors qu'il était le plus juste des justes. Eh bien, Jérôme le Jeune était un homme d'une très grande justice. C'était un Français de Paris qui est né la même année que beaucoup d'entre nous, dont moi, 1926. Il est mort à 67 ans. Dans la documentation catholique du 1er mai 1994, soit moins d'un mois après sa mort, on écrivait quelques lignes ainsi. Le professeur Jérôme le Jeune, généticien de renommée mondiale, membre de l'Académie pontificale des sciences et président de l'Académie pontificale pour la vie, récemment institué par Jean-Paul II. En effet, il a été nommé président, il est mort moins de deux mois plus tard. Eh bien, ils annoncent qu'il est décédé le 3 avril 1994. Dans une lettre adressée au cardinal Lustiger, archevêque de Paris, on ajoute que Jean-Paul II a salué, on peut ouvrir les guillemets, et je cite tout ce que Jean-Paul II a dit de cet homme, « le témoignage véritablement éclatant de sa vision comme homme et comme chrétien. En sa qualité de savant, de biologiste, il se passionnait pour la vie. Et dans son domaine, il fut l'une des plus grandes autorités au niveau mondial. » Il n'était pas le seul à le dire, le pape. Il était respecté même par ceux qui ne partageaient pas ses convictions les plus profondes. Il a toujours su faire usage de sa profonde connaissance de la vie et de ses secrets pour le vrai bien de l'homme et de l'humanité, et seulement pour cela. Il n'a jamais cherché à faire de l'argent. Jérôme le Jeune, c'est un médecin, le docteur Jérôme le Jeune. Il est devenu, ajoute le pape, l'un des défenseurs ardents de la vie, spécialement de la vie des enfants à naître, qui dans notre civilisation contemporaine est souvent menacée, la vie, menacée au point que l'on peut penser à une menace programmée. Elle est devenue programmée dans bien des pays. Faudrait qu'on s'ouvre les yeux devant cette misère épouvantable des enfants à naître. Et des bébés naissants aussi. Le professeur le Jeune, termine le pape, a pleinement assumé la responsabilité particulière du savant, prêt à devenir un signe de contradiction, sans considération des pressions exercées par la société permissive et de l'ostracisme dont il était objet. Et en effet, il a été ostracisé, même au lendemain de sa mort. France catholique, une revue française, du 15 avril 1994, c'est quelques jours après sa mort, il est mort le 3 avril, donc 12 jours après sa mort, a rendu un hommage vibrant à ce grand savant chrétien. C'est éteint, chose étonnante, comme Théard de Chardin, le matin de Pâques. Ce savant a lutté jusqu'à l'épuisement de ses forces pour faire reconnaître un statut qui protégerait l'embryon humain. Mais, y est-il parvenu? Pas vraiment, hein? Pas vraiment. On ne respecte plus ça. La plupart des gens ne comprennent plus. Il y a eu comme un immense rouleau compresseur de la télévision, de la presse et des revues. Et je retiens ici quelques éléments de l'hommage qui lui a été rendu dans France Cantalique. Je m'inspire d'un article de Claude Lavergne. Jérôme Lejeune était un généticien donc de renommée internationale. Il est né, comme je vous ai dit, en 1926 à Montrouge. Montrouge, c'est non loin de Paris. C'est là, c'est la banlieue de Paris, quoi. C'est là qu'était curé, si je me souviens bien, l'abbé Robert Lévelyne, ce prêtre admirable français d'origine très riche. Il habite un château voisin de celui de la comtesse de Ségur. Il avait à sa disposition, jeune homme, 5-6 pièces dans ce château. Il a tout sacrifié, il voulait rentrer à la trappe, s'est fait prêtre séculier. Il est devenu ici aumônier des étudiants de l'Université de Montréal. Et un jour, je vous en parlerai, j'ai bien connu l'abbé Robert Lévelyne, dont j'ai été le servant de messe à l'université pendant des années. J'ai même habité avec lui dans une maison près de l'Université de Montréal. Il couchait par terre. Alors c'est en 1953 que Jérôme Lejeune a commencé à faire connaître déjà ses recherches. Et en 59, le docteur Jérôme Lejeune a découvert quelque chose d'extraordinaire. C'était la cause de la trisomie 21, qui était connue sous le nom de mongolisme. Et encore aujourd'hui, on parle du mongolisme plutôt que de trisomie 21, ce qui semble un peu abstrait, mais par contre, le mongolisme, c'est pas très très délicat. À l'égard de ces êtres, j'en ai vu une petite fille comme ça. C'est vendredi, je suis allé chez des gens qui m'ont reçu, et leur dernier enfant est trisomique. Une petite fille adorable d'environ 5 ans, tellement affectueuse et tellement charmante. Mais j'ai vu par contre, c'est hier, sur un banc rue Saint-Mathieu au coin de Maisonneuve, un homme qui semblait désespéré, un jeune père de famille de 35 ans, qui semblait étranger, peut-être arabe, je ne sais pas, avec un petit garçon mongolien. Petit garçon nous regardait, le sourire aux lèvres, mais le père avait l'air si triste, peut-être sans travail, et avec un enfant comme ça. Quelle grande souffrance. C'est pas facile de passer à travers, mais c'est possible, et on en voit même qui adopte ce genre d'enfant, comme dans l'association Emmanuel, l'amour qui sauve, dont je fais partie. Je suis un des membres de l'administration, et dans cette association, bien, je vois des parents admirables qui adoptent ces enfants afin de permettre à des parents découragés, parents biologiques qui n'ont pas la force. C'est pas donné à tout le monde, on dirait. Et alors, Marie-Odile Rétoré, sa principale collaboratrice au docteur Lejeune, durant 40 ans, raconte qu'elle était à ses côtés en 1959, lorsqu'on a découvert l'existence du chromosome 21, qui était surnuméraire et qui était responsable de cette trisomie, de cette étrange maladie. Cette maladie était connue depuis 1859, donc depuis 100 ans, mais on n'en connaissait pas la cause. Et ce docteur Marie-Odile Rétoré lisait souvent avec le docteur Lejeune le premier chapitre de la Genèse. Et il s'arrêtait sur cette belle phrase « Tout homme est unique et fait à l'image de Dieu ». Oui, c'est au tout début de la Bible, dans les premiers versets. Tout homme, toute femme évidemment, est unique et fait à l'image de Dieu. Et cette conviction a marqué la vie du docteur Jérôme Lejeune. Quelque temps avant sa mort, d'ailleurs, il écrivait dans Le Figaro. Hein, Le Figaro est un journal extrêmement répandu à Paris, je le signale pour ceux qui l'ignoreraient, et c'est répandu par toute la France. Il écrivait donc « Alors que les progrès de la science révèlent chaque jour un nouveau secret de la vie », c'est vrai, la science nous enseigne toujours des nouveaux secrets sur la vie. Comment fonctionne le cerveau, comment fonctionne l'œil, comment fonctionne toutes sortes de choses. C'est fantastique les découvertes de la science qui nous permettent de nous émerveiller. Moi, j'adore regarder à la télévision des émissions sur le cerveau, sur l'œil, sur la voix, sur le cœur, sur, même sur la main. C'est merveilleux. Hein? La science me plonge, moi, dans l'émerveillement de ce que nous sommes. Hein? Alors donc, il avait écrit, alors que les progrès de la science révèlent chaque jour un nouveau secret de la vie, il semble que nous sachions de moins en moins ce qu'est un membre de notre espèce. C'est vrai que c'est contradictoire. Hein? Alors qu'on devrait s'émerveiller de plus en plus, bien, on tue plus facilement. Alors, jusqu'à ces derniers moments, en 1994, là, le docteur Lejeune n'a mené au fond qu'un seul combat, la défense de l'être humain dès sa conception. Il faut être décidé, hein? Il faut être décidé. Il résumait ainsi sa pensée. « Car un homme est un homme. » Vous direz que... Bah. Oui, un être humain est un être humain. Il était d'ailleurs conseiller scientifique d'un grand mouvement qui s'appelle « Laissez-les vivre », mais sur lequel il s'est prononcé aussi en disant « Laissez-les vivre pour les qu'on puisse les aider et les soutenir et soutenir les mères aussi. » Le docteur Lejeune a lutté farouchement contre la loi Veil, de Simone Veil, pas la Simone Veil dont je vous ai déjà parlé, mais l'autre, qui légalisait l'avortement partout. Il a fait ça partout. Il a défendu la vie. Hein. Il disait éliminer un embryon lorsqu'il est anormal, ou éliminer un adulte ou un vieillard malade, cela s'est inscrit dans l'histoire. On appelle ça euthanasie nazie. Et c'est vrai que les nazis ont pratiqué cette forme d'euthanasie. Je crois que les nazis ont exécuté, si je me souviens bien, dans les choses que j'ai lues il y a bien des années, 60 000 malades. 60 000 malades. J'ai vu des émissions à la télévision américaine, c'était bouleversante, hein, où on voyait des rescapés de cette espèce de carnage épouvantable de malades que l'on exécutait chez les nazis. Notre-Dame de Paris, Pierre Chaunu, qui est protestant, et que j'ai bien connu aussi grâce à mes émissions que je faisais à la télévision de Radio-Canada et que j'ai beaucoup apprécié. Pierre Chaunu, un homme bouillant, bouillant, qui est membre de l'Institut, donc un très grand savant, hein, disait du docteur Lejeune, lors des funérailles à Notre-Dame de Paris, « L'avortement lui fait horreur. Il croyait, comme nous l'avions cru avant d'en avoir reçu la preuve irréfutable, qu'un embryon humain était déjà un homme, riche de toutes ses potentialités, apte à monter vers la lumière et candidat à la vie éternelle. » Je répète, puisque nous sommes ici dans un poste de croyants, la plupart des auditeurs sont des croyants, il croyait qu'un embryon humain était déjà un homme riche, c'est très beau, de toutes, c'est un protestant qui parle, riche de toutes ses potentialités, apte à monter vers la lumière et candidat à la vie éternelle, unique, non interchangeable, que son élimination était un meurtre, que cette liberté prise par le fort contre le faible menaçait la survie de l'espèce, et bien plus gravement encore, son âme. Vous verrez tout à l'heure, je vous lirai les textes du docteur Lejeune qui sont très troublants, et d'ailleurs, dans deux belles entrevues que Pierre Chaunu, ce membre de l'Institut, très grand historien, très grand savant, m'avait accordé à la télévision de Radio-Canada, il nous parlait du renversement de la pyramide des âges. Et nous arrivons d'ailleurs à ce drame épouvantable, où dans quelque temps il faudra pratiquer l'euthanasie au Québec comme ailleurs, sur la grande échelle. Il faudra nous supprimer, nous qui avons 70 ans, et les autres, ben nous aurons 90 ans si nous survivons. Et on nous supprimera parce que les jeunes qui grandissent actuellement n'auront pas les emplois et les salaires suffisants pour payer les impôts pour nous entretenir et nous soigner. On fermera les hôpitaux encore plus qu'on ne ferme aujourd'hui. Et ce sera la débandade. C'est Pierre Chaunu qui dit que le renversement de la pyramide des âges est une catastrophe mondiale, particulièrement dans tout l'Occident. Et on le voit bien. Je vous donnerai des statistiques troublantes tout à l'heure. En tout cas, le plus bel hommage funèbre a été rendu à Jérôme le Jeune par le pape Jean-Paul II, dont je vous ai lu le texte qu'il avait adressé au cardinal Lustiger tout à l'heure. Et Jean-Paul II venait, comme je vous l'ai dit, de le nommer président de la toute nouvelle Académie pontificale pour la vie. Une Académie pontificale, c'est un groupe de savants de réputation mondiale, qui ne sont pas nécessairement des chrétiens ou des catholiques, peuvent être des protestants, mais aussi des musulmans, des juifs, et même incroyants, mais qui partagent les idéaux de la dite Académie. Et qui apportent donc leur sens des valeurs au sein de la recherche qui s'y accomplit et des discussions et des conférences qui s'y donnent, etc. Alors le Saint-Père écrivait au cardinal archevêque de Paris, Lustiger disait autre chose que ce que je vous ai lu tout à l'heure, le professeur Lejeune est mort dans la joie de Pâques, le jour de la victoire sur la mort. S'agirait-il d'une simple coïncidence? Pour un homme qui ne connut qu'une seule passion, la vie. S'il a connu ainsi une seule passion, qui était la vie, il y a un très beau témoignage qui a été donné à l'occasion du décès de Jérôme le Jeune. C'est un témoignage qui est paru dans le Figaro magazine. Vous connaissez, j'espère, un peu ce magazine fort bien fait, il y a d'excellents collaborateurs, c'est un magazine souvent très intéressant sur le plan artistique, littéraire, politique, etc. Et dans le numéro du Figaro magazine, qui est le pendant du journal Le Figaro, c'est paru le 9 avril, donc 6 jours après la mort du professeur Lejeune. C'est un texte du professeur Lucien Israël. Oui, j'ai bien dit Israël. Et voici ce qui est dit dans le Figaro magazine. Le professeur Jérôme Lejeune vient de nous quitter à 67 ans, en pleine activité. L'affliction de tous ceux qui l'ont connu, et de tous ceux si nombreux qu'il a aidés, secourus, rassurés, porté dans les épreuves n'a d'égal que la méconnaissance du plus grand nombre intoxiqué par les médias partisans. Ce professeur de génétique parisien, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. L'Académie des sciences morales et politiques, c'est rassemble des Français de très haute envergure, des savants. Il était membre aussi de l'Académie de médecine, donc ça rassemble les meilleurs médecins français. Membre, comme je vous l'ai dit, de l'Académie pontificale des sciences, conseiller du pape, a été le découvreur du mongolisme et du même coup a mis en évidence l'existence, jusque-là insoupçonnée, de maladies congénitales par aberration chromosomique. Mais il n'a cessé de faire l'objet jusqu'au lendemain de sa mort de venimeuses attaques en raison de sa lutte contre la médicalisation de l'avortement de convenance. Médicalisation de l'avortement de convenance, ça veut dire qu'on pratique des avortements parce que on pense que c'est peut-être une bonne chose à faire sans trop de raisonnement. Je me souviens de mon ex-bru, la femme de mon fils, la première femme, car ici, il y a eu deux femmes. Sa première femme qui me disait, « Papy, tu sais, demain, je me fais avorter. » Et elle était séparée de mon fils. Et elle disait ça avec une telle dégagement, comme pour me froisser en même temps, peut-être. Parce qu'elle avait quelque chose d'un peu curieux en elle. Elle avait beaucoup souffert dans son enfance. C'est peut-être qu'il fallait qu'elle nous fasse souffrir, nous, les adultes. Et elle m'a dit ça. Comme ça, comme si c'était rien du tout, et au fond, je savais, et je ressentais qu'au fond de son cœur de mère, elle souffrait. Et elle m'a ajouté, j'en ferai un autre l'an prochain. Ça fait mal quand on entend ça au bout de la ligne, et qu'on estime quand même son ex-bru, mon ex-belle-fille. Ça m'a tellement fait de peine, parce que je l'aimais beaucoup quand même. Je m'en ennuie des fois, j'y pense. Je pense à elle. Je ne sais plus ce qu'elle est devenue. Et alors, le professeur Lucien Israël continue ce qu'il a écrit dans le Figaro magazine en disant qu'il avait été, le professeur Lejeune, attaqué en raison de sa lutte contre la médicalisation de l'avortement de convenance, lutte qui procédait du même esprit et de la même attitude en face de la vie que son activité de scientifique et de praticien. Il a juste mis un pieux devoir d'amitié que de rappeler quel homme il fut, de foi, de courage, de science et de compassion. C'est un des plus grands hommes, à mon avis, de ce siècle, le professeur Jérôme Lejeune. Le professeur Israël ajoute, « Lorsque j'ai fait sa connaissance en 1951 au peloton des officiers de réserve du service de santé, il me confia qu'il avait choisi de travailler sur les mécanismes et la caractérisation du mongolisme et qu'il espérait, sous 2 à 3 ans, en percer le secret, ce qu'il a fait d'ailleurs. Il y mit quelques années supplémentaires, mais pour la plus grande gloire de la médecine, ce fut lui qui le perça en montrant que, au lieu de 2 chromosomes de la 21e paire, bien les Mongoliens possédaient un chromosome supplémentaire, d'où le nom de trisomie 21. Et depuis, les travaux de Jérôme Lejeune n'ont cessé de perfectionner nos connaissances quant à la génétique et à la biochimie du système nerveux. Puis il dit, nous étions en train, lorsque la mort l'a frappé, d'étudier ensemble certains phénomènes biologiques liés au fonctionnement du système nerveux des organismes supérieurs. Vous voyez que c'était un grand savant. Hein? Et ce qui ajoute le professeur Israël est superbe. Il dit, mais cette soif d'en savoir davantage allait de pair avec une pratique permanente, quotidienne de médecin. Et la plus difficile qui soit. C'est un vrai médecin, quoi. Le jeune, par ses actes, ses consultations, ses interventions, a redonné à des foules de jeunes mongoliens la dignité et le statut d'êtres humains à part entière. Il a donné à leurs parents à la fois des raisons et la capacité de surmonter un destin contraire, d'éprouver et de manifester leur amour et de recevoir en échange celui de leurs enfants malheureux. C'est vrai, hein, quand on va chez des gens qui ont des enfants mongoliens, que ces enfants sont pleins de tendresse. Quel échange on peut avoir avec eux. C'est tragique, mais c'est beau en même temps. Et professeur Israël ajoute, il leur a donné la paix, la force et l'envie de vivre, de quitter le désespoir pour une épreuve acceptée et vécue en commun. Et là, il écrit quelque chose de magnifique dans le Figaro, le professeur Israël. De cette grande œuvre humaine peuvent aujourd'hui témoigner en maint pays, donc dans de nombreux pays, et dans le nôtre particulièrement, soit la France, des milliers de parents, des dizaines d'associations, des centaines d'éducateurs auxquels il a montré la voie grâce à sa compassion active. Et cette double activité de scientifique et de médecin des malheureux et des désavantagés par le sort s'est nourrie de toujours, et c'est le professeur Israël qui écrit, s'est nourrie de toujours à une foi catholique exigeante et brûlante qui devait le mener à défendre avec la même ardeur, dans le droit fil de ses principes, la vie des embryons menacés par l'avortement médicalisé, légalisé, banalisé et remboursé par la sécurité sociale. Il s'est battu pour faire admettre que dès la conception, la vie du futur bébé a le même prix, la même signification, la même dignité que celle de l'enfant et de l'adulte. Et soit dit en passant, la même dignité que celle du vieillard malade. Il a maintes fois appuyé en public sur la distinction doit prévaloir entre l'avortement de convenance, geste qui n'appartient pas à la médecine, et la douloureuse situation où, pour des raisons médicales, il faut choisir entre la détresse de la mère et celle de son futur enfant, ou la mort des deux. C'est sûr que dans ce cas-là, il faut pratiquer l'avortement. Alors pour avoir, c'est-à-dire qu'on ne pratique pas en fait l'avortement, on sauve la vie de la mère. Pour avoir maintenu sa position avec courage et l'inflexibilité d'une conscience pure face à tout ce qui déferlait sur lui et qui maintenant prend aussi en ligne de mire hein, l'euthanasie. On arrive à l'euthanasie actuellement. Hein? L'euthanasie active, médicalisée, à des conditions de plus en plus douteuses. Et pour avoir placé ses convictions désintéressées au-dessus des calculs et des compromissions, bien Jérôme le Jeune dut non seulement essuyer des insultes de toutes sortes, de viles attaques, des injures grossières, mais il a dû aussi, depuis 1982, renoncer à tout crédit officiel pour ses recherches, et même à l'espoir d'un prix Nobel qu'il méritait amplement, mais pour lequel il faut être proposé par ses pairs, ses égaux, là. Et il savait que beaucoup d'entre eux n'en auraient pas le courage. Alors il reste, et beaucoup s'en souviendront, que ce grand médecin scientifique français fut un homme irréprochable, de haute spiritualité et de haute humanité. Il laisse un vide d'autant plus grand que la notion de l'imminente dignité de la vie est en péril de nos jours. Oui, elle est en péril. Dans une culture occidentale où la poursuite des moyens et la satisfaction du désir supplantent la recherche, l'identification et le respect des fins ou des buts à atteindre, on n'a plus de but, on ne sait plus pourquoi on vit. Et la fin du texte, c'est ainsi, mais il laisse des continuateurs fervents de toute philosophie. Vous savez qu'il y a des athées qui pensent comme lui, et de toute confession, des musulmans, des juifs, n'importe qui. Il devait en être assuré, car le professeur Lejeune nous a quittés sans crainte ni amertume, mais avec la sérénité des justes. Et nous verrons tout à l'heure la pensée du docteur Jérôme Lejeune. Et nous commémorons le décès, il y a 2 ans aujourd'hui, du professeur Jérôme Lejeune. Et je parcours rapidement un rapport des Nations Unies. C'est la division de la population du département des affaires économiques et du développement social. Quel grand nom. Bon, ils ont publié récemment un rapport que le taux de natalité est tombé sous la moyenne de remplacement dans les nations fortes, économiquement fortes. Car il y a seulement 1,9 naissances par femme contre près de 4 naissances par femme dans les pays en voie de développement. Nous n'en avons pas 2 naissances par femme, et puis eux en ont 4. Le rapport dit aussi que la mortalité infantile dans les pays en voie de développement est 5 fois plus élevée que dans les pays développés. Donc, il faut plus de bébés, évidemment, pour assurer la survivance dans ces pays pauvres. Mais, selon le problème du taux de remplacement, combien il faut de bébés par femme? Il faut 2,1 enfants par chaque femme, évidemment. C'est des statistiques, alors. Donc, il faut un petit peu plus de 2 enfants par femme pour maintenir le niveau d'une population. Et cette espèce de dixième d'enfant, le virgule 1, là, c'est la marge prévue en cas de perte de vie par accident. C'est une marge plutôt mince. Bon. Et les environnementalistes, toujours selon les Nations Unies, disent qu'une espèce est en voie de disparition quand le taux de natalité tombe sous 1,7. Alors, les humains dans les pays développés, nous autres, au Québec, au Canada, aux États-Unis, partout, pas rien qu'au Québec, sont donc en voie de disparition. Nous sommes en voie de disparition, disent-ils. En moyenne, la femme aux États-Unis a 1,9 enfants au cours de sa vie. 1,9, eux autres. Nous autres, ici au Québec, c'est 1,4, je crois. En Europe, elle en a 1,5. Dans les pays occidentaux, c'est en Italie, pays prétendument catholique, que le taux de natalité est le plus faible. 1,2 par femme. Puis l'Espagne, un petit peu plus. L'Allemagne et l'Autriche, c'est catholique, ça. L'Allemagne, c'est en grande partie catholique, 1,3. En France, le taux est de 1,8. Et c'est dû en grande partie aux 4 millions de musulmans et à toutes sortes de choses comme ça. Et le taux le plus bas au monde, bien, c'est en Russie. Un enfant. Au Canada, le taux de natalité est stable, 1,4 depuis quelques années. Mais c'est dû à l'immigration, c'est pas nous qui les faisons, surtout ces enfants-là, hein, je pense. Une grande partie est faite par les immigrants. Mais selon le Winnipeg Free Press, hein, Winnipeg Free Press, c'est un journal très, très, très sérieux au Canada, hein, Winnipeg Free Press. Mais Statistique Canada prédit que la population canadienne va disparaître. Si les taux actuels de natalité et d'immigration se maintiennent indéfiniment, le Canada reçoit actuellement 250 000 immigrants par année. Alors notre population, qu'on appelait la population proprement canadienne autrefois, va disparaître. Petit à petit. Le niveau de population de la Suède, savez-vous que le taux de natalité en Suède est de 2,1? Bien oui, 2,1 en Suède. C'est stable en grande partie à cause des immigrés encore. Évidemment qu'en Irlande, eux, ils ont presque 4 enfants par femme. Et ça va baisser, l'avortement s'introduit. Alors, on peut se demander si l'avortement suscite beaucoup de tristesse. Et c'est dans le Newsweek qu'on a fait une enquête extrêmement intéressante. 67% des femmes répondent que la chose la plus malheureuse qui peut leur arriver, c'est un avortement. C'était pas comme ça il y a 10 ans. On pensait pas que c'était un drame. Mais là, on s'en rend compte, et les femmes s'en rendent compte, et les hommes aussi. 55% des hommes ont répondu que ce serait un avortement qui subirait leur femme ou leur ami qui les rendrait le plus malheureux. Ce pourcentage des réponses masculines est de 55%, là, c'est 19% plus élevé qu'il y a 10 ans. Imaginez, ça a augmenté énormément, hein? Puisque du tiers. Alors, pour les répondants des deux sexes jeunes, entre 18 ans et 49 ans, mais ce qu'ils disent, c'est très intéressant, là. Écoutez bien ça. L'avortement est un pire malheur que l'incapacité de payer ses dettes. C'est un pire malheur que l'obtention d'un divorce, ce qui est un drame terrible. L'avortement serait un pire malheur que le sentiment de désobéissance à Dieu, qu'un pire malheur que la perte de leur emploi. Et puis c'est un pire malheur que le fait d'être obèse, ce qui affecte beaucoup d'Américains. C'est au début des années 70, je me souviens en 1970, que Claude Edelman, que j'ai bien connu, j'ai déjà déjeuné avec lui, ce photographe admirable, qui a fait les premières photos des enfants tout petits dans le sein de leur mère, et qui a publié en couleur des photos des enfants à quelques jours, quelques semaines. Alors on les voit à 3 semaines, puis à 5 semaines, 7 semaines. C'était publié déjà en couleur il y a 26 ans. Ça a fait le tour du monde dans toutes les revues. Alors on a vu ça partout dans le monde. C'était phénoménal. Et encore aujourd'hui, on fait des films superbes qu'on passe à la télévision américaine. On ne passe pas ça ici au Québec, je ne sais pas pourquoi. Mais des films d'une heure sur toute l'apparition de l'ovule fécondé qui se divise en 2, en 4, en 8, en 16. Et comment ces cellules savent-elles ce qu'elles doivent faire? Êtes-vous capable de me répondre? Comment des cellules qui se divisent 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, etc. D'où vient qu'elles savent dès le début ce qu'elles doivent faire pour faire un cœur qui bat en 19 jours? Qui peut me répondre? Si ce n'est que c'est programmé de façon magistrale par quelqu'un. J'ai devant moi des revues Paris Match, bon, publiées il y a bien longtemps. Je garde ça dans ma bibliothèque, ces photos fantastiques du mystère de la vie. Quantité de revues en couleur, des photos admirables. Eh bien, ce que le professeur Jérôme Lejeune disait de tout ça, il disait cette première cellule qui se divise activement, ce premier amas en incessante organisation, cette petite mûre, une mûre, vous savez que c'est comme une petite framboise, une petite mûre, qui va se nicher dans la paroi utérine. Est-ce déjà un être humain, différent de sa mère? Et les femmes qui disent, c'est mon corps, est-ce bien leur corps? Le professeur Lejeune dit non seulement son individualité génétique est bien certainement établie, mais chose difficilement croyable, ce minuscule embryon au 6e ou 7e jour de sa vie, avec tout juste 1,5 mm de taille, est déjà capable de présider à son propre destin. C'est lui et lui seul qui, par un message chimique, incite le corps jaune de l'ovaire, à fonctionner et suspend le cycle menstruel de sa mère, ce petit enfant. Il suspend le cycle menstruel de sa mère. Il oblige ainsi sa mère à lui conserver sa protection. Déjà, il fait d'elle ce qu'il veut, et Dieu sait qu'il ne s'en privera pas par la suite. Et le docteur Jérôme Lejeune, qui est un des plus grands généticiens de ce siècle, continue en disant « à 15 jours de retard de règles, c'est-à-dire à l'âge réel d'un mois, puisque la fécondation ne peut avoir lieu qu'au 15e jour du cycle, bien l'être humain mesure 4,5 mm. Son cœur déjà, ton cœur minuscule bat déjà depuis une semaine. Oui, notre cœur bat dans notre poitrine, toute petite au début, depuis le 19-20e jour après notre conception. C'est notre même cœur. Bien oui. Son cœur minuscule, dit le professeur Lejeune, bat déjà depuis une semaine. Ses bras, ses jambes, sa tête, son cerveau sont ébauchés déjà. À 60 jours, bon, 2 mois. 2 mois. Ou encore même 1,5 mois de retard de règles, si vous voulez. Il mesure de la tête à la pointe des fesses quelques 3 cm. Il tiendrait replié dans une coquille de noix et à l'intérieur d'un point fermé, il serait invisible. Et ce point fermé l'écraserait par mégarde sans qu'on s'en aperçoive. Mais, ouvrez votre main, il est quasiment terminé. Oui, il est déjà terminé. Les photos sont là. Qu'on ouvre les yeux, qu'on résonne, grand Dieu. Il a les mains, des pieds, une tête, des organes, un cerveau, tout est en place. Et ça ne fera plus que se développer. Le professeur Lejeune ajoute, regardez de plus près, vous pourrez déjà lire les lignes de la main. Oui, lire les lignes de la main. C'est pas des blagues, là, je suis sérieux. Vous savez que le professeur Lejeune, professeur de génétique fondamentale à Paris, a prononcé ces paroles que je vous lis ici devant l'Académie des sciences morales et politiques à Paris, l'équivalent, si vous voulez, pour ces gens-là, de l'Académie française. Il a dit ça il y a déjà 23 ans, l'a-t-on entendu? Puis il dit, regardez de plus près, donc vous pourrez déjà lire les lignes de la main, et si ça vous plaît, tirez la bonne aventure. Il avait toujours le sens de l'humour, malgré le tragique de ses propos. Regardez de plus près encore, dit-il, avec un microscope ordinaire ou une forte loupe, et vous déchiffrerez ses empreintes digitales. Tout est là pour établir sa carte d'identité. Le sexe paraît encore mal défini, mais regardez de tout près la glande génitale. Elle évolue déjà comme un testicule si c'est un garçon, ou un ovaire si c'est une fille. Et cet incroyable petit enfant, un homme moins grand que le pouce, existe réellement, non point celui de la légende, le Tom Pouce de la légende, mais celui que chacun de nous a été. Nous avons tous été cela. Mais à 2 mois, le système nerveux fonctionne-t-il déjà, dit-il. Mais oui, il dit oui, il le sait. Il ne dit pas n'importe quoi, Jérôme Lejeune. Si sa lèvre supérieure est frôlée avec un cheveu, il bouge ses bras, son corps et sa tête dans un mouvement de fuite. Eh oui, à 2 mois. J'ai failli moi-même être avorté quand j'avais 2 mois. Oui, en 1926. Mon père voulait l'avortement par pitié pour ma mère, qui était malade. Mais ma mère n'a pas accepté. Je suis là. Merci, maman. Et je remercie mon père de m'avoir si bien adopté quand je suis né. Il m'a beaucoup aimé. Il était très fier de moi. Il a su m'accepter après avoir, par pitié, voulu ma mort. Mais heureusement, maman m'a sauvé. Voici un beau texte du professeur Lejeune. Je voudrais simplement, c'est une communication qui était présentée dans le cadre d'un grand congrès à Versailles, en France. Je voudrais simplement vous exprimer ce qui se passe en ce moment dans les pays où se pratique l'avortement. Tout ça date de plus de 25 ans. Il suffit de voir les résultats des changements survenus dans l'État de New York. Dans cette région, l'avortement est libre, c'est déjà libre dans le temps, par simple accord de gré à gré entre la mère et l'avorteur, pourvu que ce dernier soit muni du diplôme de docteur en médecine. Or, le New York City Department of Health, si vous voulez, le département ou le service de la santé de la ville de New York, New York City Department of Health, a publié les premières statistiques pour les 6 premiers mois de 1971. Et cette publication de la Planned Parenthood Federation of America, c'est une organisation qui favorise l'avortement et tout ce qu'il faut pour, dit-on, libérer la femme. Eh bien, cette publication de la Planned Parenthood Federation of America a été analysée dans le Scientific American, le numéro d'octobre 1971, en page 42, et les chiffres suivants sont tirés de cette analyse. Ils disent que depuis la promulgation de la loi donnant la liberté d'avorter avant la 24e semaine, c'est-à-dire jusqu'à la fin du 6e mois de la grossesse, il y a 9 mois, je vous le rappelle, donc du 6e mois de la grossesse, eh bien, il y avait déjà 164 300 avortements qui ont été enregistrés en une année. Et ce chiffre, dit professeur Lejeune, de 164 300 doit être comparé aux quelques 130 000 naissances enregistrées pour cette même période. Donc, plus d'avortements que de naissances. Il dit plus loin, et ce charnier de 164 300 morts, charnier dont on ne parle guère parce que les cadavres sont petits, produit un trouble profond dans ce pays. Cet ébranlement des esprits, ce vacillement du jugement est presque physiquement sensible et je voudrais vous en rapporter quelques exemples. Cela se passait il y a 15 jours au Kennedy Center à Washington. La Fondation Kennedy avait présenté un film pour montrer au public la gravité des problèmes de la génétique moderne et pour faire sentir combien il était abominable de rejeter les enfants parce qu'ils étaient malades. Ce film avait été tourné d'après une histoire réelle survenue à l'hôpital Johns Hopkins de Baltimore, quelques mois auparavant. Et l'histoire est la suivante. Eh bien, peu après la naissance, un enfant atteint de trisomie 21 est reconnu porteur d'une atrésie du duodénum, c'est-à-dire qu'il ne peut pas l'éliminer. Alors, ça ne lui permet pas de s'alimenter, le pauvre enfant. Alors, cette anomalie, dit le professeur Lejeune, condamnait donc l'enfant à mort à moins d'une intervention chirurgicale relativement simple. Et les parents refusèrent l'intervention. Le chirurgien s'est adressé alors au juge local de Baltimore, du district de l'hôpital, en lui posant la question. Si je vous demande officiellement de m'autoriser à passer outre au refus parental, est-ce que vous, cour de justice, me soutiendrez? L'opinion du juge qui a été rendue publique fut la suivante. Les parents ont le droit de s'opposer à l'intervention, en somme, de tuer leur enfant. Le fait que les parents s'y opposent prouve d'ailleurs que l'enfant serait ultérieurement à la charge de la société, et dans ces conditions, la cour de justice ne s'élèverait pas contre leur droit de refus, et alors, qu'est-ce qui est arrivé? Bien, on l'a laissé mourir, cet enfant. On a mis à la porte de la chambre écartée, là, un écriteau. Nothing by mouth. En somme, rien par la bouche. Ça a pris combien de temps pour cet enfant pour mourir? 15 jours. Il est mort au bout de 15 jours. Tout ça dans l'un des plus grands hôpitaux du pays, le plus riche du monde. Vous savez qu'il y a des témoignages de personnes qui ont pratiqué des avortements ici et là. C'est pas toujours le cas. Mais ça arrive, dans certains cas, qu'on avorte des enfants très avancés et on les laisse mourir après les avoir arrachés du corps de leur mère. Ça arrive. De toute façon, tout ça est tellement épouvantable. Le professeur Lejeune dit, il est surprenant que ceci se passe à notre époque. Et je ne pense pas que pour les médecins qui sont dans la salle devant laquelle il parlait, aucun d'entre nous puisse croire que des discussions pareilles aient pu être possibles dans un pays civilisé. il y a seulement 10 ans. En effet, en 1960, c'était impensable. Mais depuis les années 70, il semble qu'on accepte presque tout. C'est extrêmement étrange. Professeur Lejeune dit qu'en, au nom d'une certaine dialectique, ou enfin une façon de raisonner, on refuse de reconnaître qu'un homme a débuté, ou un être humain a débuté quand il a débuté, quand on prétend qu'un malade n'a pas les mêmes droits qu'un bien portant, on fait un tel contresens qu'il n'est pas possible, à partir de cette idée fausse, de poursuivre un raisonnement efficace. Alors il conclut en disant, pour finir, peut-être, pouvons-nous paraphraser le début de la Genèse et dire que la science est l'arbre du bien et du mal. Ici, la science devient l'arbre du bien et du mal. Seulement, l'arbre se juge aux fruits et les fruits, c'est nous qui les cueillons. Et quand je dis nous, ce n'est pas la médecine seule, c'est l'ensemble de toute la population. Et la population peut dire quel fruit elle veut cueillir sur cet arbre de la science. Et dans ce cas-là, l'arbre n'est plus dangereux. Il ne fait pas peur, parce que nous ne prendrons sur lui que les fruits qui sont bons. Alors nous avons à choisir. Nous avons à choisir si nous voulons présenter la science comme aboutissant définitivement à la désespérance et à la haine, à l'élimination des faibles et à la proscription des malades, ou si au contraire, nous voulons qu'elle soit un gage d'espoir et d'amour pour la protection des enfants et pour la victoire sur les maladies. Il termine en disant « Le choix scientifique est là. Il n'y a pas d'autre. C'est de la façon dont nous le ferons que dépendront les fruits que nous recueillerons. » Le professeur Lejeune termine en disant « Je crois que le titre de notre association est bien choisi, il est « Laissez-les vivre ». Mais il n'est pas suffisant, ce titre. Il faut aussi les aider à vivre. Il faut aussi les guérir. Les aider à vivre, c'est les adopter, les aimer. Il faut aussi les guérir. Quand je vois certains de mes amis qui ont adopté des enfants trisomiques, là, ou paralysés cérébraux, et qui les aiment tellement, vous savez, ils n'en adoptent pas simplement un parfois. Dans certains cas, comme les Mirons ici, dans l'ouest de Montréal, qui en ont, je pense, 11 ou 12 ou 13, mais qui les aiment d'un tel amour. Les Desrosiers à Drummondville, Michel Desrosiers, diacre, et sa femme, France Baudouin. Ils en ont je ne sais plus combien. Et ils les aiment tellement que ces enfants s'épanouissent. Il faut les voir, c'est tellement extraordinaire. Je ne dis pas qu'ils sont normaux, ces enfants-là. Mais ils s'épanouissent, ils sont aimés. Ils sont souvent plus heureux que bien des gens bien portants. Donc il faut aussi les guérir, dit le professeur Lejeune. Voici les deux buts que nous poursuivons, les aider à vivre, les guérir. Devant l'énormité de la tâche et la formidable nécessité de réussir, bien une seule chose est certaine, quoi qu'il advienne, nous n'abandonnerons jamais. C'est la pensée du professeur Lejeune. Quand le pape a créé l'Académie pontificale pour la vie, il disait que le mystère de la vie, plus particulièrement de la vie humaine, attire de plus en plus l'attention des savants qui sont stimulés par les extraordinaires possibilités d'investigation que les progrès de la science et de la technique offrent aujourd'hui à leur recherche. Et cette situation nouvelle ouvre des perspectives fascinantes d'intervention sur les sources mêmes de la vie. Mais elle pose aussi de multiples questions inhabituelles d'ordre moral que l'homme ne peut pas ignorer sans courir le risque de poser des gestes peut-être irréparables. Irréparables. C'est ce que le pape disait le 11 février 1994, alors qu'il a nommé le professeur Lejeune président de cette Académie pontificale pour la vie. Et il est décédé moins de 2 mois plus tard. Dans une autre conférence du professeur Lejeune, il disait alors « Qu'est-ce qui nous reste ?»« À nous qui avons en main des possibilités qui n'avaient jamais été données aux hommes, bien il nous reste la morale. » Ce qu'on appelle l'éthique aujourd'hui, on n'aime pas ça le mot « morale ». On pense qu'on se cache derrière le mot « éthique ». Quel snobisme, quelle futilité dans les mots. C'est insensé. En tous les cas, il nous reste la morale. La morale, c'est beau, c'est riche. C'est pas niaiseux. Cessons donc d'avoir des œillères. Hein. Elle est très simple, en vérité, dit le professeur Lejeune. Elle s'exprime en une seule phrase qui juge tout. Ce que vous avez fait au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous l'avez fait. Vous savez qui a dit ça? C'est Jésus-Christ. Jésus-Christ. Le professeur Lejeune ajoute, si les hommes de science n'oublient jamais cette parole, la technologie la plus sophistiquée restera au service des hommes et de la médecine. Mais s'ils l'oublient, et si les hommes qui font les lois l'oublient aussi, alors vous aurez tout à redouter de la biologie dénaturée. C'est ce qui risque de nous arriver.